CFM, le mag, la vie du pays Midi-Quercy.
Le mag pays Midi-Quercy, tous les mercredis de 12h à 12h30 et samedi à 18h.
Bonjour, bonjour à tous, merci d'être fidèles au MAG du pays Midi-Quercy. Aujourd'hui, nous avons en première partie trois invités, deux de la VQR, l'association vidéo Quercy-Rouergue, avec Gino Pessotto et Étienne Poussou, qui ont réalisé le film « Des Aigues et des Hommes », en clair, un film en occitan sous-titré en français, qui présente au Centre culturel du Sacré-Cœur à 20h30, samedi 16 mars, à Montricou, ce film-là qui sera suivi d'un débat animé par Christian Tchoqueux, qui est membre du Conseil de développement du pays Midi-Quercy, chercheur au laboratoire d'études sur le développement durable, et qui est par ailleurs président du CPIE Midi-Quercy. Tous les trois viennent expliquer ce qu'est ce film et quel est l'enjeu. L'enjeu, évidemment, est la gestion de l'eau. Dans un deuxième temps, nous avons Laetitia Morabito qui nous présente, elle aussi, des dates dans le cadre de la charte forestière, de l'étude de la forêt de notre territoire, des rencontres grand public pour expliquer ce que pourrait être la gestion forestière sur le territoire. Dans le cadre du festival La vie rurale, c'est pas de la science-fiction, un certain nombre d'expositions, de spectacles, de conférences et de cinéma. En l'occurrence, on va parler de film qui est projeté le 16 mars à Montricou, qui s'appelle D'Aigues et d'Hommes, de l'eau et des hommes, et c'est réalisé par la VQR. Pour en parler, on a Gino Pessotto. Oui.
Bonjour.
Bonjour. Étienne Poussou.
Oui, bonjour.
Aussi. Et Christian Tchoqueux, qui est président au passage du Centre permanent d'initiative pour l'environnement.
Je suis désolé.
Il démarre fort. Alors, la VQR, pourquoi ce film? Il y avait déjà eu un film.
La VQR, association vidéo Quercy-Rouergue, siège social à Parisot, dont l'objectif est entre autres la conservation du patrimoine oral, en particulier de la mémoire des anciens langues occitanes. Et en 2003, dans ce cadre-là, dans les cantons de Quélus et Saint-Antonin, a été réalisé le film tout en occitan des Pays Rosés d'Aigues, qui parlait du problème de l'eau au début du XXe siècle, et c'était essentiellement la mémoire des anciens. Donc, ce film avait été diffusé à l'époque, et puis reproduit en cassette VHS, et puis il est resté dans les placards. On n'en parlait plus, et puis bon, il y a eu quelques demandes. Vous n'auriez pas ce film, oui, mais il n'est pas en DVD. Bon, bonne idée, on va le mettre en DVD. Les nouvelles techniques aidant, nous nous sommes proposés de le sous-titrer en français dans un premier temps. On verra plus tard pour d'autres langues. Et du coup, il a été projeté à Casals, à Bruniquel, et même à Toulouse, dans le cadre d'une série de conférences sur l'eau, en muséum. Et il a été visionné, vu par un certain nombre donc de spectateurs, et parmi eux, des personnes qui organisaient ce fameux festival, le monde rural, ce n'est pas de la science-fiction. Et on nous a proposé de faire une suite, ou plutôt une actualisation. Et cette vidéo parlerait des problèmes de l'eau aujourd'hui, qui sont différents, et aussi identique, enfin par certains points, avec ce qui avait été raconté en 2003. Donc 10 ans plus tard, voici le nouveau film. Ma foi, nous ne sommes pas mécontents de notre travail, qui est un travail quand même très complet.
Alors le premier film, le précédent, montrait comment, historiquement, quand on construisait, on pensait à l'eau, à la collecter, à la récupérer, voire même on construisait là où il y avait déjà de l'eau. Là, la problématique est différente pour le présent et l'avenir. On a l'adduction automatique, on ouvre un robinet et l'eau arrive. Sauf que elle arrive d'où?
Voilà. Et tellement simple que effectivement, on a pensé plus à l'économiser. Et puis, il y a eu un tel usage que maintenant, on commence à se poser des questions sur la quantité et la qualité.
Alors, dans la perspective développement durable, ça sera la question qu'on abordera avec Christian Choquet. Mais Gino Pesotto, c'est une préoccupation millénaire ?
Oui, l'eau a toujours été une préoccupation majeure de nos populations, en particulier sur l'Écosse, où elle a tendance à s'enfoncer et donc la conserver était quelque chose d'important. Au-delà du fait que c'était parfois même difficile et pénible d'aller la chercher. Et donc nous sommes partis de cette réflexion que ont eu nos anciens sur cette ingéniosité qu'ils avaient eue à conserver cette eau, à la capter, à la canaliser, à la conserver, pour nous interroger sur justement l'utilisation de l'eau aujourd'hui, en particulier de l'eau potable. Et nous sommes allés interviewer le président du syndicat des eaux de Caylus. Nous sommes allés interviewer des habitants qui eux-mêmes ont engagé des démarches de réhabilitation depuis ancien de citernes pour pouvoir limiter la consommation de cette eau, et nous leur avons effectivement demandé comment les choses se passaient. Et nous sommes ensuite allés demander aussi à des gens qui utilisent l'eau qui passe, l'eau des rivières en particulier. Traditionnellement, c'était les pêcheurs, c'était les moulins. Donc nous avons là aussi interviewé des pêcheurs plutôt anciens, des pêcheurs plus jeunes, plus récents. Il est intéressant de voir leur point de vue différent, voire divergent. Et nous avons aussi interviewé des agriculteurs qui aujourd'hui sont parmi les principaux utilisateurs de l'eau avec l'irrigation, puisque près de 70% de l'eau utilisée sur notre territoire l'est par l'agriculture. Et finalement, nous sommes allés voir des gens qui l'utilisent l'été, en particulier les loueurs de canoës, et voir qu'est-ce que le développement de ce tourisme apporte, mais aussi génère comme difficulté. Voilà, c'est cet ensemble de témoignages qui questionne. L'AVQR, dans sa présentation, n'a pas pris parti pour tel ou tel, mais a mis en avant un certain nombre de témoignages.
C'est une préoccupation, Christian Choquet, il y a de quoi craindre ?
Alors, il y a au moins de quoi s'interroger. Alors, il est certain que le fait d'avoir apporté l'eau au robinet empêche les questions d'arriver. Très facile d'ouvrir un robinet, on n'a plus l'effort d'aller à la fontaine pour quérir l'eau dont on a besoin. Et à partir de là, c'est une ressource qui devient inépuisable et tout le temps propre.
Et du coup, on se préoccupe pas quand on veut, par exemple, semer un type de je sais pas, de céréales, par exemple, qu'on s'interdisait auparavant. On se dit bon, maintenant c'est facile, il suffit d'arroser. Il y a qu'à.
Il y a qu'à, parce que, en fait, les calculs. Je vais parler un petit peu scientifique. Hein, les calculs montrent qu'a priori, sur le pays Médicarcy, on manque pas d'eau. Quand on divise la quantité de pluie qui arrive en tonnes par le nombre d'habitants, on arrive à un chiffre qui est quasi astronomique, c'est-à-dire de 18 000 mètres cubes par an et par habitant.
Oui, mais quand le sol est perméable.
Alors voilà, il va falloir faire des soustractions maintenant. Alors d'abord, il y a le sol qui est perméable. On est sur un karst. La plus grande partie du pays Médicarcy est un karst, donc on a des écoulements verticaux profonds, très difficiles à capter. C'est un gros problème. Mais il y a aussi les espaces naturels qui sont consommateurs. Un hectare de forêt, c'est 3000 tonnes d'eau par an, hein, pour le besoin naturel de la forêt. La prairie, c'est une quantité aussi impressionnante. Donc quand on arrive à faire toutes les soustractions, on arrive à une quantité d'eau par habitant qui devient beaucoup plus faible. Et cette eau-là, faut la partager. Faut la partager pour produire de l'énergie. Faut la partager pour produire notre alimentation. Le monde agricole en a besoin, et ce monde-là nous fait à manger. Et on en a besoin pour nos loisirs. Étienne l'a dit également, comme Gino, hein, pour la pêche des canoës. On en a besoin, en fait, pour toutes les activités quotidiennes des êtres humains. Donc cette eau-là, en fait, puisqu'en fait on n'a pas ces 18 000 cubes par an et par habitant, on en a beaucoup moins, eh bien il va falloir apprendre à la partager. Donc il y a un problème de gouvernance autour de l'eau qui va se mettre en place, et je crois qu'un des objectifs premiers du film, c'est non seulement d'ouvrir les consciences, mais les élever à un niveau critique, de s'interroger sur notre mode de consommation, sur ce qu'on va faire de l'eau, parce que, donc effectivement, les quantités vont diminuer, pluviométrie est censée aller...
Pardon, vous me parlez, pour l'origine de l'eau, de pluviométrie.
Oui.
Comme si les pluies précédentes des décennies antérieures n'étaient pas stockées quelque part dessous, profond.
Alors, il y en a qui sont stockées, mais en fait, faut pas croire qu'il y en a pour des millénaires hein, de stocks. C'est vrai dans certaines régions du monde. Il y a des grandes nappes qui ont plusieurs milliers d'années, qui sont très profondes, 800 mètres, 1 km de profondeur. Les nôtres sont renouvelées beaucoup plus rapidement, lors de quelques années. Et une période de sécheresse grave, comme on en a vécu récemment, ben peut impacter la disponibilité de l'eau sur les deux ou trois années qui suivent, si on n'a pas une pluviométrie très intense.
Avec en plus le fait qu'elle soit passée par des sols qui sont pas parfaitement sains, fait que cette eau pourrait être corrompue.
C'est le deuxième vrai problème. C'est la quantité est une chose, la qualité qui est en évolution plutôt négative, en fait est un second problème. C'est lié à des suremplois de produits, par exemple des pesticides, de mauvais emplois. Je veux pas stigmatiser la population agricole, hein, c'est loin de là mon avis, hein, mais en fait le suremploi d'un certain nombre de produits qui se dissolvent et qui sont transportés par l'eau vers les nappes et qui on retrouve, pas dans nos robinets obligatoirement parce qu'il y a des lois, mais qui vont impacter le coût de distribution de l'eau parce qu'il va falloir traiter en amont.
Oui, parce que la dissolution, ça veut pas dire la disparition.
Ah non, loin de là. Hein.
Y compris même, quelquefois, il y a des concentrations dans des espèces.
Traiter un kilo de nitrate dans de l'eau potable, c'est 80 euros, à peu près. Traiter un kilo de pesticides dilués dans l'eau, c'est 70 000 euros. Donc on comprend bien qu'on a quand même intérêt à aller le plus près possible de la source pour éviter qu'il y ait des surcoûts ménagers.
Le film d'Aigua et d'Orme, c'est le 16 mars à Montricou, le 26 mars à Espinasse et le 12 avril à Puy-la-Garde, suivi d'une table ronde sur la gestion de l'eau. Gino Pesotto, Étienne Poussou, Christian Choquet, je vous remercie.
Merci.
Merci à vous.
L'eau est l'enjeu majeur de la décennie à venir. Les pollutions, la surconsommation, les sécheresses obligent à nous questionner sur notre comportement. L'eau n'est pas inépuisable. Tous ces bâtis assurent un vrai respect du naturel. Ils mettent l'eau au cœur d'une vie sociale active. Ils sont une source d'inspiration pour les nouvelles générations qui inventeront des nouveaux modes d'exploitation de l'eau, à l'image de l'intelligence de ces ouvrages.
La vie du pays Midi-Quercy.
Le MAG Pays Midi-Quercy, tous les mercredis de 12h à 12h30 et samedi à 18h.
Dans le cadre de la charte forestière, Laetitia Morabito, vous avez des animations à nous annoncer.
Tout à fait. Donc bonjour. Donc effectivement, il y a deux manifestations qui vont être organisées sur le territoire du pays Midi-Quercy au mois de mars sur le thème de la forêt et de la filière bois. La première manifestation, elle va se dérouler le samedi 16 mars à Veissac à partir de 10h. C'est une journée qui est ouverte à tous, qui est gratuite. Cette journée est en fait l'occasion d'échanger ensemble sur l'avenir de nos forêts, sur la valorisation aussi des produits bois. Et puis c'est aussi l'occasion d'évoquer ensemble le développement et la structuration de la filière bois-énergie locale qui est importante aujourd'hui sur notre territoire. On aura différents temps forts qui vont marquer cette journée, avec le matin à la salle des fêtes de Veissac à partir de 10h, une conférence débat, donc avec l'intervention de différents acteurs de la filière et la forêt bois, qui vont donc parler de la gestion forestière, de l'intérêt de gérer nos forêts, et aussi vont retracer un peu l'historique de la filière bois-énergie sur notre territoire, et nous évoquerons au travers de différents témoignages mais le développement et la structuration de cette filière. Et l'après-midi, ça se déroulera sur le terrain, mais derrière la salle des fêtes. Donc à partir de 14h seront proposées des démonstrations et des expositions de matériel divers, donc là encore autour de la filière bois-énergie. Donc par exemple, vous aurez l'occasion de voir une démonstration de la déchiqueteuse pour la production de plaquettes forestières, d'un combiné fondeur pour la production de bois-bûches, etc. Et par ailleurs, sous un chapiteau qui sera installé derrière la salle des fêtes, il y aura des stands des différents partenaires de la filière qui seront tenus. Donc c'est l'occasion pour chacun mais de venir s'informer sur la gestion forestière, sur le bois énergie. Et par ailleurs, le CAUE et l'espace Info Énergie présenteront une exposition sur le bois construction. Sachant qu'aussi à partir de 16h30, il est proposé deux types de visites au choix. Soit la visite d'une maison à ossature bois et d'une chaufferie bois à Veissac chez un agriculteur, soit la possibilité d'aller visiter la chaufferie collective de Nègrepelisse et la plateforme de stockage aussi située sur la commune de Nègrepelisse. Et puis la journée, elle se terminera avec à 18h, donc vous voyez une journée assez dense, avec à 18h l'organisation d'un débat autour de la question de la transition énergétique, avec notamment la diffusion de petits courts-métrages sur cette thématique.
Alors ça, c'est le samedi 16 mars, c'est à la salle des fêtes de Veissac à partir de 10h, et vous en avez encore une autre.
Et effectivement, donc une deuxième animation, et à peine quelques jours après, puisque la deuxième animation a lieu le 21 mars à Genébrière. Donc 21 mars, c'est la journée internationale de la forêt, et c'est aussi bien entendu le premier jour du printemps. Il vous est proposé de venir vous initier à un diagnostic forestier. Donc c'est dans le cadre des 4 saisons de la forêt du Midi-Quercy, qui est une manifestation qui a été initiée dans le cadre de la charte forestière et qui est coordonnée par le CPIE. Et donc ces manifestations, elles ont pour objectif de faire découvrir au grand public un peu la forêt, ses enjeux. En ce 21 mars à Genébrière, on propose à chacun de venir s'initier à un diagnostic forestier, c'est-à-dire que chacun puisse avoir des clés pour interpréter un peuplement forestier, savoir quel type de peuplement il y a face à lui, reconnaître certaines essences d'arbres, d'arbustes, savoir appréhender la nature du sol, l'état sanitaire de la forêt, etc. Et donc pour nous initier à ce diagnostic forestier, on a monsieur Jean-François Clos, qui est président du syndicat des forestiers privés de Tarn-et-Garonne et également donc propriétaire à Genébrière, qui va nous accueillir sur sa propriété pour nous initier à cette méthode d'autodiagnostic. Donc ce 21 mars, c'est rendez-vous à 14h à la mairie de Genébrière.
On peut se renseigner ailleurs ?
Alors, au Pays Midi Quercy, donc appelez le 05 63 24 60 64.
Laetitia Morabito, je vous remercie.
Merci à vous.
CFM, CFM, le MAG, la vie du Pays Midi Quercy.
Le MAG Pays Midi Quercy, tous les mercredis de 12h à 12h30 et samedi à 18h.
Merci d'avoir suivi ce MAG du Pays Midi Quercy que vous pouvez retrouver sur le site cfmradio.fr en cliquant sur émission, le MAG du Pays Midi Quercy. À la semaine prochaine.